micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
De 12h30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letami.info.
Salut, salut, c'est...
Bonjour à toutes et tous. Nous sommes enchantés aujourd'hui, toute l'équipe Micro-Ondes, de reprendre cette émission avec vous. Aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver sur 97 FM ou sur radiokaleidoscope.net. Pour vous servir à la technique, nous avons Samia.
Et salut.
Bonjour toutes les deux. Sur le plateau, nous avons Yvon avec nous et moi-même, Abdel. Donc voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, plein de belles choses en prévision. Nous avons un petit peu plus tard, au cours de cette émission, des invités de marque avec nous pour nous parler de gymnase et des luttes qui s'y mènent, à savoir Anas, Iliès et Aubin. Mais pour commencer, sans plus attendre, Yvon va nous présenter quelques montages des manifs qui ont lieu partout en France et notamment à Grenoble, à commencer, si je ne me trompe, Yvon, par la marche des solidarités qui a eu lieu à Paris.
Voilà, alors effectivement, il y a eu énormément, on a eu un mois de mars où ça a bougé énormément partout. Il y a vraiment un printemps des luttes qui démarre déjà au mois de mars. Hein. Et en particulier le 22 mars, comme il y a 50 ans. Et j'avais envie de vous parler simplement, mais il y aura des montages également. Vous me direz en régie à partir de quel moment. Le 17 mars, alors à Paris d'abord, 17 mars à Paris, il y a eu la marche des solidarités. Et c'est-à-dire qu'il y a de nombreux collectifs de migrants dans toute la France, de sans-papiers, de militants aussi, et notamment des militants des quartiers populaires, qui se sont organisés pour faire une manifestation à Paris de l'Opéra à Stalingrad contre la loi asile-immigration qui va encore durcir la loi donc pour l'éducation contre les immigrés. Et donc ça va rendre encore plus insupportable leur situation. Alors, au menu, moins de temps pour faire déposer des demandes d'asile, ça veut dire qu'on ne préparera pas, il y aura plus de déboutés. D'ailleurs, à ce sujet, ceux qui étudient les demandes d'asile actuellement sont en grève. Plus de déboutés, plus de sans-papiers, de sans-droit donc, et à partir de ce moment-là, ils ne pourront pas travailler et ils seront encore plus dans la précarité. Et donc, rallongement de la durée de détention qui va pouvoir aller, je crois, jusqu'à 100 jours, hein, 105 jours, je crois. C'est un projet qui est déjà critiqué par la Cour européenne des droits de l'homme. Il a été déjà critiqué dans le passé. Et le deuxième sujet de cette manifestation, c'était contre les crimes de la police qui sont dirigés très souvent contre des racisés dans les quartiers. Et qui sont, il n'y a pas que les trucs médiatisés comme Adama Traoré qui est rentré dans un commissariat, qui est sorti les pieds devant, et comme Théo qui n'aurait pas été violé, hein, voilà. Et ces crimes se soldent la plupart du temps par des qualifications judiciaires qui sont toujours minorées ou alors carrément des non-lieux. Bon, pour la manif, elle a été très dynamique malgré le froid et la neige tout le long de la manif. Et au départ de Grenoble, il y avait un quart plein, 55 places, avec pour moitié des migrants qui occupent le patio actuellement sur le campus. Donc là-haut, on était entre 2000 la police et 6000 d'après les manifestants, voilà, comme d'habitude. Oui,
oui, je vais juste compléter par rapport à cette manif, où il y avait aussi les peuples qui ont choisi de s'autodéterminer, à savoir les Kanaks, la Nouvelle-Calédonie, où il y avait un référendum. On me dit de changer de place. Ne quittez pas.
Ça marche mieux, là ? Impec. Alors, je disais, ouais, qu'il y avait aussi tous ces peuples qui souhaitaient avoir droit à l'autodétermination, à savoir les Kanaks, la Nouvelle-Calédonie, où il y a un référendum peu dénommé d'abject qui est en train d'être, de se dérouler là-bas. Il y avait aussi nos amis catalans qui étaient là. Ça, c'était une première d'avoir ces collectifs-là avec nous. Donc, c'était pour ça que je t'ai interrompu, Yvan, juste pour préciser.
Oui, mais c'était important, effectivement. Et c'était une manif qu'on a tous considérée comme importante, qui fait chaud au cœur et qui a pratiquement été ignorée par les grands médias. Et là, on va passer un petit reportage de cette manif.
Quand ils arrivent dans cette gendarmerie, Adama a le ventre contre le sol, les menottes au poignet. Ils vont demander aux gendarmes, enlevez-lui les menottes. Ils vont dire non. Les pompiers vont insister. Ils vont dire, enlevez-lui les menottes. C'est un jeune homme de 24 ans. On doit le sauver. La mort de mon frère est officiellement déclarée à 19h05. Ma mère va aller devant la gendarmerie et elle va dire, j'entends nous dire que mon frère, mon fils a été un malaise. Les gendarmes vont dire, madame, votre fils va très bien. Vous ne pouvez pas le voir, il est 21h. Les habitants de Beaumont, avec toutes les villes limitrophes, vont venir devant cette gendarmerie et demander à voir Adama. Aux alentours de 23h, un de mes petits frères qui est en prison aujourd'hui, parce qu'il a mis le pied devant la porte de la gendarmerie pour voir Adama, est en prison aujourd'hui pour outrage et violence contre les gendarmes. On vient le chercher 11 mois après. On va apprendre la mort de mon frère aux alentours de 23h, alors que mon frère est mort depuis 19h05. Les gendarmes vont regarder ma mère droit dans les yeux en lui disant que son fils va très bien. Bah, le combat pour la famille Traoré va commencer ce jour-là. Il faut savoir qu'à la première autopsie, on va nous convoquer, on va nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans, que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours, que le corps d'Adama peut partir dès le lendemain, parce que la France a conscience qu'une grande partie de sa population ne connaît pas ses droits. Ils vont nous emmener le corps de mon frère pour que nous puissions pas faire de deuxième autopsie. On va dire non. Et cette deuxième autopsie va venir une semaine après, va dire que Adama n'est pas mort ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous l'emprise de la drogue, ni de cause cardiaque, ni d'un faisceau très grave, mais bien mort asphyxié. À la hauteur de leur mobilisation. J'ai 3 frères qui sont en prison aujourd'hui. On a subi plus d'une centaine d'heures de garde à vue. On reçoit des menaces de mort.
Ils sont la misère.
École de la colère.
Emmanuel Macron.
Le combat, on le gagnera seulement quand on aura renversé ce système qui a été créé depuis des décennies. On va remonter sur le temps de l'esclavage, sur le temps de la colonisation, sur le temps d'aujourd'hui, où le doigt est pointé sur nos jeunes frères, où le doigt est pointé sur ces hommes de couleur noire, arabe, ou les personnes qui n'ont pas la bonne couleur, où ces personnes-là, où ces jeunes-là, comme ces migrants aujourd'hui qui sont là, où mes frères, où tous les Adama Traoré, ne sont même pas considérés comme des personnes pouvant participer à la construction de ce monde. Participer à la construction de cette France et pouvant même participer à la construction de notre propre vie.
Les rebelles nous expulsent.
Aussi du combat.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur l'émission Micro-Ondes, l'émission qui nous tient à contre-courant sur 97 FM.
Et on enchaîne avec Yvon toujours sur les retours des différentes manifs. Et là, nous avons la manif intersyndicale, interpro, et notamment celle de cheminots dont va nous parler Yvon.
Oui, c'est une manif, bon, en plus c'est une date symbolique parce qu'il y a exactement 50 ans, c'était le démarrage, on peut dire, très symbolique de... Là, on montre un panneau.
Non, vous continuez.
Oui, oui.
Ouais.
Le démarrage donc de toutes ces manifs, comme en mai 68, c'était un 22 mars. Et là, c'était une première grande manifestation de la colère en réponse à l'accélération des attaques sur les droits sociaux, sur les services publics. Donc c'est les cheminots qui donnent le ton, mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs qui commencent à se remuer. Bon, il y avait les transports aériens, il y avait l'éducation nationale, des enseignants, des étudiants. Des étudiants extrêmement dynamiques d'ailleurs, sur la réforme de l'université, la sélection, et puis également des attaques de la police dans les facs, et y compris des fascistes à Montpellier, qui ont tabassé les étudiants. Il y avait sur la santé, les hôpitaux, les EHPAD, les psychiatries, les brancardiers, dans le secteur automobile, Ford, Bosch, qui est accessoiriste, la grande distribution, maintenant il y a Carrefour, les retraites, etc. Et même les soi-disant auto-entrepreneurs comme Deliveroo, et je dis soi-disant parce qu'en fait, ils sont entièrement dépendants de grands groupes, c'est juste pour leur supprimer des droits. Et même des salaires, puisque pour avoir un SMIC, quand on est auto-entrepreneur à livrer des pizzas, eh ben, il faut déjà bosser. Hein. Donc face à cela, bon, ben la police, face à ces mouvements, elle commence à charger dans les facs hein, pour essayer d'arrêter le mouvement, mais ça l'a accéléré, mauvaise pioche. Et également des délégués syndicaux qui sont attaqués hein, maintenant, comme on voit maintenant à La Poste, comme on a vu à Air France. Et il y a juste un truc qui se porte bien en ce moment, c'est le CAC 40.
On a un petit reportage à écouter. Samia.
Là, ce qu'il s'agit de remettre en cause, c'est que des services publics qui ont été payés avec notre argent, édifiés avec notre travail, vont être bradés à des groupes privés dans la décennie qui vient. Et ça commence par une technique bien connue, c'est que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, donc on commence par baisser les budgets, baisser les moyens humains, le service se dégrade, la population finit par exiger des réformes, et la réforme est retrouvée, c'est la privatisation. Au lieu d'avoir un service public qui garantit l'égalité d'accès à tous les citoyens sur le territoire, et peu importe leur classe sociale, à un droit d'accès à l'éducation, au transport, à la santé et à la culture, vous aurez un système à deux ou trois vitesses, avec pour les uns des cours particuliers en chinois et en anglais international, pour les autres des classes à 35 et pour les autres l'apprentissage obligatoire à 14 ans. C'est pareil, des TGV de luxe pour les cadres supérieurs et pour les autres, des bus super chers, bondés, des RER pourris. Parce que ça sert à rien d'investir pour les pauvres, ils ne rapportent plus rien. Et tout ça par ordonnance, parce que le Parlement ça sert à rien, c'est aspi, c'est tout ça au XXe siècle, donc nous on fait par ordonnance, on avance, on négocie. Donc on va clairement vers une société dont le projet économique est fait pour 20% de la population. Et ça n'amène strictement rien de positif pour l'avenir. Ça sera source des pires convulsions politiques et sociales.
Tout le monde déteste la police, et tout le monde déteste la police, et tout le monde déteste la police.
Et c'est bien contre ça qu'on se bat. Il va falloir faire passer cette idée qu'on n'est pas là pour défendre un statut ou des privilèges qui n'existent plus depuis bien longtemps, mais bien pour défendre un modèle de société démocratique et juste. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la bataille idéologique aujourd'hui.
En 1968, le 22 mars, les étudiants de la fac de Nanterre s'organisaient. Ça a donné ce que l'on sait. Alors je ne sais pas si c'est de bon augure aujourd'hui, mais je pense que les fonctionnaires et les agents publics ne peuvent plus se laisser faire et maltraiter comme ils se font maltraiter. Les annonces du gouvernement sont plus que pitoyables et dangereuses. Et dangereuses pour les fonctionnaires, bien évidemment, mais dangereuses pour la société dans laquelle on vit. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que donnera les mobilisations de demain, mais je pense qu'aujourd'hui doit marquer le début d'un certain nombre de mobilisations qui vont faire tomber le gouvernement et tomber effectivement les réformes qu'ils veulent mener. Merci.
Vous êtes toujours sur l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. Yvon avait deux, trois petites remarques à compléter par rapport à cette manif intersyndicale interpro sur Grenoble. À toi la parole, Yvon.
Oui, c'était juste pour dire que à Grenoble, effectivement, j'ai parlé en général, mais à Grenoble, la manif a été assez largement suivie pour un premier coup de semonce au gouvernement, avec la présence de pas mal de syndicats quand même, pas tous malheureusement, mais j'espère que ça viendra. C'était surtout la CGT, FO, FSU et la CNT, et quelques partis de gauche et des associations. Et on a remarqué la présence très très dynamique de la manif étudiante tout le long du parcours.
Merci Yvon. On continue toujours avec toi sur une manif qui a eu lieu le 24 mars, celle du droit au logement. J'en profite pour saluer nos amis du DAL 38 et du collectif des mal logés. Yvon, à toi la parole pour nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là.
Oui, cette manif, elle est partie du 10-20 Galerie de l'Arlequin, qui est appelée à être démolie. C'est un projet qui se fait contre la plupart des occupants. Certains ont déjà été virés, d'autres résistent. Voilà, donc symboliquement, elle est partie de là et elle a été jusqu'au centre-ville. Et en s'arrêtant dans différents lieux symboliques, avec des prises de parole que vous allez sûrement entendre et qui sont que j'ai trouvé super intéressantes. Donc le but de la manif, c'est à la fois contre le coût du logement à Grenoble. Il y a plein de gens qui peuvent pas se loger décemment, ou pas se loger du tout. Il y a des insuffisances de logements sociaux, enfin très sociaux. Et on en profite en plus pour en détruire, ça c'est quelque chose d'assez étonnant de la part des pouvoirs publics. C'est aussi la lutte des locataires, dont certains vont maintenant pouvoir se faire virer puisque c'est la fin de la trêve hivernale. Et d'après Le Monde d'hier, on prévoit 15 000 expulsions à partir d'aujourd'hui, et avec 155 000 procédures. Donc c'est un truc énorme, une augmentation de 50% par rapport à l'an dernier. Bon, la manif, c'était aussi pour la réquisition. Et si les pouvoirs publics le font pas, eh bien, c'est les gens qui le font eux-mêmes. C'est aussi pour la construction de logements très sociaux et pour des hébergements pour les gens qui sont dans la rue. Et on a appris il y a quelques jours par le sous-préfet lui-même, que ça allait diminuer l'an prochain, alors que les besoins augmentent. Voilà. Et c'est à peu près tout. On va entendre le reportage.
La préfecture qui orchestre tout ça, qui laisse les gens dehors, les gens crèvent à la rue chaque année, été comme hiver, et il va falloir que ça change. C'est pour ça que là, cette manifestation, on est à une semaine de la trêve d'hiver, le 31 mars, ce sera la fin, il y aura des expulsions, il y aura des remises à la rue, mais on sera sur leur route, on sera mobilisés partout là où il y a des expulsions.
Elle procède par petits bouts, donc hier soir, par exemple, au gymnase Benoît Frachon, 20 places ont été fermées. Et lundi, encore 20 places seront fermées. Ils vont procéder par petits bouts. Par une expulsion ici, une expulsion là. Et en fait, ce ne sera même pas des expulsions. C'est ce qui s'est passé au gymnase. En fait, quand les gens arrivent pour dormir, la porte elle est fermée. Leurs affaires sont dedans. Voilà comment ils procèdent. Ça a déjà commencé cet hiver, au début de la trêve. Ils ont fermé l'énergie des squats, justement en espérant que les gens, en ayant peur d'avoir froid, se sortent et s'en aillent dans la rue. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, voilà la nouvelle pratique. Il faut s'y opposer. Mais ça va être plus compliqué.
Mais nous, on crie plus fort, on occupe encore. Pour qu'à la fin de la trêve, il n'y ait personne dehors. Mais nous, on crie plus fort et on occupe encore.
Qu'est-ce qui va advenir ? Si ce n'est pas le 31 mars, ça sera le 30 juin pour le patio. Mais ça peut être aussi le 3 avril pour les bungalows de Pont-de-Clé. Ça peut être le 15 avril pour d'autres lieux d'hébergement. Et comment on va continuer à chaque fois à être présent, à ne pas laisser faire n'importe quoi ? C'est-à-dire soit des remises à la rue pure et simple, soit des retours en arrière, On a parlé de faire revenir des personnes qui sont actuellement dans les bungalows de Pont-de-Clé, de les faire revenir dans des gymnases. C'est ce que j'appelle un retour en arrière. Donc voilà. Et puis continuons d'être ensemble.
Mais nous on crie plus fort, tu n'occupes pas encore. Pour qu'à la fin de la traville, les personnes dehors, mais nous on crie plus fort et on n'occupe pas encore.
Je vais ici, c'est parce qu'effectivement, bah juste à côté, il y a les fameux gymnases avec 87 personnes. C'est ça l'hébergement de la trêve hivernale. C'est horrible. 300 personnes sur 6000 personnes à la rue, logées dans des conditions épouvantables. Des adjécos insalubres à calcier. Des gymnases où les gens s'entassent pendant des mois. Et en plus, ils ont l'indécence de fermer ça, même avant. Il a fallu se mobiliser. Oui, on se rend compte que la mobilisation, ça paye. Effectivement, ils ont rouvert.
En tout cas, depuis début décembre, c'est le patio à Saint-Martin-d'Air. C'est un endroit où des étudiants se sont dit non, c'est impensable qu'on ait cette société de fous où des personnes vivent à la rue en plein hiver. Et il y avait, et il y a encore malheureusement, mais il y avait en tout cas 50, 60 personnes qui dormaient dans le parc, juste à côté là, ou qui dormaient ailleurs dans Grenoble. Bref, il y a eu occupation d'abord d'un amphithéâtre, et puis de locaux sur la faculté. La belle tranche de vie, on peut dire, se poursuit à l'heure actuelle. Elle n'est pas facile. C'est des conditions difficiles d'hébergement. Il y a un certain soutien de la faculté quand même, de la présidence de la faculté, qui essaye de dire des choses à monsieur le préfet, qui essaye de lui dire que tout ça est lié aux non-attributions de titres de séjour, aux renvois systématiques des personnes, au lieu de se soucier de leur hébergement, de leur logement. N'empêche que pour l'instant, le patio, donc, qui héberge plus de 60 personnes qui étaient à la rue, sinon, continue d'exister avec des personnes qui se mobilisent, des personnes qui ont envie d'écrire à M. Collomb, qui ont envie d'écrire aussi à leurs gouvernants de leur propre pays pour dire les conditions dans lesquelles ils sont contraints de vivre. Les dernières nouvelles, c'est que le patio se poursuivrait jusqu'au 30 juin. La mobilisation, l'autogestion qui est vécue là-bas, il n'y est sûrement pas pour rien. Autogestion des personnes et mobilisation avec les étudiants, avec le soutien d'autres collectifs, d'autres assos. Ben, toute cette mobilisation, elle n'y est pas pour rien, le fait que ça se poursuive. Mais en tout cas, on a tous à rester vigilants sur ce lieu-là, comme sur les autres lieux qu'on a cités.
J'entends le maire, le préfet, le commissaire, j'entends le maire et le préfet chanter. J'entends le maire, le préfet, le commissaire, j'entends le maire et le préfet chanter. Mais nous on crie plus fort, on occupe encore. Pour qu'à la fin de la tréville, les personnes dehors. Mais nous on crie plus fort et on occupe encore. Pour qu'à la fin de la tréville, les personnes dehors. J'entends le maire, le préfet, le commissaire, j'entends le maire et le préfet chanter. J'entends le maire, le préfet, le commissaire, j'entends le maire et le préfet chanter. Mais nous on crie plus fort, on n'occupe encore. Pour qu'à la fin de la tréville, les personnes dehors, mais nous on crie plus fort.
On va faire une petite prise de parole pour la Malapprise, qui est une maison occupée au quartier des Eaux-Claires. Depuis bientôt 6 ans, la Malapprise s'est constituée à Grenoble en refuge pour des personnes queer, des personnes trans, des femmes cisgenres et des familles précaires. Des personnes qui au quotidien vivent diverses oppressions dues au sexisme, au cissexisme, à la transphobie, à l'homophobie, à l'exclusion sociale, au racisme, à la xénophobie, et qui proposent un espace sans hommes cis pour des personnes de la communauté LGBTQIA+. La Malapprise est une maison où cohabitent depuis tout ce temps des personnes opprimées par le capitalisme et l'hétéropatriarcat. C'est une maison où les droits à l'autodétermination des personnes et leur bien-être est un principe de vie. C'est une maison où les ressources se partagent, où les choses se décident entre nous, où les gens s'entraident.
C'est une maison où on ne va pas regarder ta carte d'identité pour savoir qui tu es. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre un loyer, pour celles et ceux qui n'ont pas accès à un salaire, à l'aide familiale ou aux minima sociaux. Aujourd'hui, la Malapprise est menacée par la ville d'expulsion si elle ne signe pas une convention. Celle qu'on nous a proposée donnerait à la mairie tous les droits sur un espace qui depuis 6 ans a été peu à peu construit par ses occupantes comme un espace de sécurité et de vraie vie pour des populations LGBTQI et d'autres personnes malmenées par le capitalisme et l'hétéropatriarcat. Dans un contexte où les interventions sociales officielles témoignent plus souvent d'un mépris condescendant envers les marginaux que d'une réelle envie d'aider, nous mettons en commun des ressources, de l'énergie, des outils. La Malaprise est un lieu de vie que nous nous efforçons de soigner et de défendre au quotidien. La proposition de convention qu'on nous a faite nous semble assez asymétrique. Elle contient des exigences irréalistes et déplacées. On est en droit de se demander s'il ne s'agit pas plus d'une caution sociale pour la mairie que d'une véritable envie d'améliorer nos conditions de vie. C'est en position de pouvoir que la ville nous aborde. C'est depuis leur bureau, dans la méconnaissance totale du terrain et de nos réalités de vie, qu'ils prétendent venir nous ordonner comment faire, s'emparer et contrôler un projet de vie déjà en marche, en ignorant les résistances et les alternatives concrètes que construisent depuis 6 ans ces occupantes. Non aux expulsions, pas de conventions pourries, respecter nos espaces de vie. La Malaprise.
Et ici aussi, comme à la Villeneuve et comme un peu partout ailleurs, il y avait des locataires qui vivent dans des logements HLM à bas loyer. Et vous voyez tous ces bâtiments-là que vous voyez, actuellement ils appartiennent à Kiss, mais ils sont menacés de démolition. Il y a ici 300 logements qui sont vides depuis des années et des années. Il y a eu des promesses de réhabilitation, il y a eu des promesses de rénovation, et finalement les gens partent petit à petit et ne sont pas remplacés. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 300 logements qui sont vides, et les rares locataires qui restent, ils sont laissés dans des conditions indignes d'insalubrité et de saleté. Ici aussi on va démolir des logements qui sont très sociaux, et ils vont encore démolir ceux qui sont au fond et qu'on ne voit pas d'ici. Et les autres, tenez-vous bien, ils vont pas être laissés, ils vont pas être réhabilités par le public, ils vont être réhabilités par le privé. C'est-à-dire qu'on demande aux locataires sociaux de partir d'ici. Ils leur demandent de partir, ils les font partir en les laissant dans des conditions de vie qui sont dégueulasses. Et une fois qu'ils seront partis, le privé va racheter, va réhabiliter et va faire des loyers pour les riches et pour les très riches. Parce qu'ici, c'est un quartier qui est à 2 doigts du centre-ville et c'est un quartier qui intéresse énormément les promoteurs et les spéculateurs dans la ville. Donc ici aussi, il va falloir se battre contre les démolitions, il va falloir se battre contre la vente des logements sociaux, sinon on va jamais s'en sortir.
Et nous on crie plus fort, on n'occupe pas encore, pour qu'à la fin de la très vie, les personnes dehors, mais nous on crie plus fort et on n'occupe pas encore.
Vous voyez, c'est une vraie galère, les logements sont mal chauffés, du coup on va essayer de redonner un peu et vraiment de montrer que là on est dans la rue, mais c'est pour que tout le monde puisse se loger décemment, c'est pour qu'on arrête de construire contre nous une ville qui nous exclut sans cesse toujours plus loin. Du coup, on invite vraiment les locataires, les personnes qui sont mal logées, qui sont dans les logements, qui rencontrent des problèmes vis-à-vis du bailleur, à venir nous rejoindre et à marcher avec nous. On est là, on est pour le droit au logement pour tous et toutes.
On va squatter ta maison, pépé de région, si t'arrêtes pas toutes les expulsions, contre toutes les expulsions, réquisitions. Personne à la rue et la rue nous l'occupons. On va squatter ta maison, préfère région. Si t'arrêtes pas toutes les expulsions.
La métro a pris la compétence de l'aménagement du territoire et a pris la compétence logement et la compétence réquisition. En fait, la métro aujourd'hui, c'est le projet métropolitain. C'est l'éco-quartier qu'on voit pousser à Flaubert. Voilà ce que c'est la métro. Et la question aujourd'hui, c'est de loger les gens les plus modestes. C'est pas la priorité. Voilà le problème qu'on a avec la métro. Par contre, la métro a fait des réserves foncières. Nous demandons toujours que ces réserves foncières soient mises à la disposition des gens qui n'ont pas le droit commun au logement, qui n'ont pas les moyens de se loger. Voilà. Il ne s'agit pas de faire des logements de pauvres qui soient trop chers. Et entre autres, la question de la précarité énergétique. Loyer pas cher, énergie trop chère. C'est pour ça qu'en tous ensemble, on va dire baisse des loyers.
Baisse des loyers et baisse des charges. Et non, aux expulsions.
antifascistes. Prenons, prenons,
antifascistes. Alors il y a plein de copains qui sont pas là parce qu'ils ont peur de se retrouver impactés avec leur demande d'asile. On leur fait peur. Ils n'ont plus le droit d'être dignes et d'être humains et d'avoir le droit de penser et de s'exprimer. Donc nous ne sommes plus dans une démocratie. Des gens habitent et vivent sur ce territoire mais n'osent pas s'exprimer. Voilà où on en est. Et donc il y a des centaines de personnes qui ne participent pas à la manifestation pour cette raison. Donc nous avons tous et toutes, habitants de Grenoble, comme les squatteurs, comme les personnes sans abri, toutes les personnes, les locataires, les propriétaires, la responsabilité de savoir ce qui se passe à côté de chez soi et de pouvoir nous informer de ce qui est en train de se passer.
Mais nous on crie plus fort, tu n'occupes pas encore. Pour qu'à la fin de la trêve, les personnes dehors, mais nous on crie plus fort et on n'occupe pas encore.
On veut leur vivre, c'est sur trêve hivernale, on n'en veut plus. Pendant la trêve hivernale, il y a eu plein de gens à la rue. Il a fallu que les patios se mobilisent, et super pour les gens du patio. Et pendant la trêve hivernale, il y a des expulsions qui ont continué pendant toute la trêve hivernale. Et ça va recommencer. Donc non, on n'en veut plus de la trêve hivernale à la température. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en été, les gens ils meurent à la rue de la même manière et autant qu'en hiver. Et les gens se retrouvent à la rue, dans l'anonymat, dans l'isolement. Voilà, nous, ce qu'on veut, effectivement, c'est un prélogement pour tous. Il y en a marre de devoir se mobiliser pour défendre effectivement des lieux d'hébergement à droite, des lieux d'hébergement à gauche, des lieux d'hébergement crasseux. Nous, ce qu'on veut effectivement, c'est qu'ils l'offrent. On a des logements sociaux, et nos collectivités locales qui sont soucieuses uniquement d'une seule chose, c'est de leur image de marque. Alors effectivement, nous, on est là pour dire que le logement, il est pour tous, et on ne cédera pas, et on ira le chercher, et on le défendra. On est ensemble, la lutte elle paie, la lutte elle va continuer, parce que c'est comme ça effectivement qu'on fait. Et ce qui est important, c'est de dire que jamais les puissances d'argent ne gouverneront pour nous. On n'en veut pas, on les renverra dos à dos, les municipalités, les conseils départementaux qui veulent jouer la fille et qui détruisent les logements sociaux de leurs propres citoyens. C'est une chasse aux précaires, c'est une chasse aux classes populaires, donc on ne veut plus, et on luttera sans arrêt comme ça. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'un toit, ça sera toujours un droit pour tous, et on ne lâchera pas là-dessus. Ouais.
Pour les gens qui n'ont pas d'argent, ça tombe bien, il y en a 10 000 dans les murs de notre ville. Ça tombe bien, il y en a 10 000 dans les murs de notre ville. Fini de se faire expulser, il faut réquisitionner. Fini de se faire expulser, il faut réquisitionner. Voilà, voilà la liste des bâtiments vides. Voilà, voilà la liste des bâtiments vides. Il faudrait plus de logements pour les gens qui n'ont pas d'argent. Il faudrait plus de logements pour les gens qui n'ont pas d'argent. Ça tombe bien, il y en a 10 000 dans les murs de notre ville. Ça tombe bien, il y en a 10 000 dans les murs de notre ville. Fini de se faire expulser, il faut réquisitionner. Fini de se faire expulser, il faut réquisitionner. Voilà, voilà la liste des bâtiments vides. Voilà, voilà la liste des bâtiments vides. Il faudrait plus de logements pour les gens qui n'ont pas d'argent. Il faudrait plus de logements pour les gens qui n'ont pas d'argent. Ça tombe bien, il y en a 10 000 dans les murs de notre ville. Ça tombe bien, il y en a 10 000 dans les murs de notre ville.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours sur l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. On va se faire une petite pause musicale après tous ces retours sur les différentes manifs et les différentes luttes, avec un choix fait par notre camarade Yvon. Et justement, le morceau, c'est Camarade, un morceau symbolique, parce qu'après, avec toutes ces luttes, l'idée, c'est qu'il faudra bien qu'on partage. Samia, à toi.
Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Kaléidoscope et 97 FM. Et maintenant, on passe à la suite. Il s'agit d'un montage sur le 8 mars. Alors, le 8 mars, c'était la manifestation nationale, c'était une date nationale de manifestation pour le droit des femmes. Et était présente à cette manifestation solidaire la CGT, Sud PTT, le NPA, le PCF, Femmes Égalité, Oser le Féminisme, le Planning Familial, SOS Homophobie, des déviantes et des déviants, et des personnes concernées et ou solidaires de la cause. Et donc la manif fait partie de l'hôpital Couple-Enfant, on est passé ensuite par la préfecture, et tout ça en direction de Félix Poula. La manif a commencé à 15h40, c'est l'heure à laquelle les femmes commencent à bosser gratuitement, chaque jour. Voilà, et bien tout de suite on écoute le montage de la manifestation. À tout de suite.
Mobilisation des ouvrières de l'habillement de New York qui, dans les années 1850, travaillaient 16 heures par jour dans des pièces étroites et souvent sans fenêtres. Leur salaire n'excédait pas 4 dollars par semaine. Le 8 mars 1857, elles descendent dans la rue pour obtenir 10 heures de travail par jour, des pièces saines et claires pour travailler, des salaires égaux à ceux des travailleurs, des tailleurs. Dans le meeting qu'elles le soir de cette journée, les couturières américaines jurent de se retrouver chaque année à la même date.
Olé, lé, oh là là, tous unis contre le patriarcat. Olé, lé, oh là là, et le capitalisme, on le combat.
Ces violences ne sont pas des actes individuels, isolés. Ces violences touchent tous les milieux sociaux, sont intergénérationnelles et ont lieu partout dans le monde. Elles plongent la racine dans deux systèmes d'aliénation qui se nourrissent mutuellement sans jamais se confondre et que nous combattons, le capitalisme et le patriarcat.
Allez, venez, mesdames, descendre dans la rue. On attaque nos droits, on ne se taira plus, crier plus fort, mesdames, reprenez notre chant. C'est pour l'égalité et contre le temps partiel, on vaut mieux que ça. Mesdames, ils veulent nous ignorer, on va se mobiliser jusqu'à l'égalité.
Le seul moyen de garantir l'application des lois sur l'égalité professionnelle, c'est de sanctionner les entreprises ou administrations qui ne les appliquent pas. 80% des femmes disent être victimes de sexisme au travail. 20% de harcèlement sexuel au travail. 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour en France sur le lieu de travail.
Alors le retour à la rémunération au mérite, les femmes étant jugées moins disponibles et moins impliquées. La remise en question des instances représentatives des personnels. On sait que ça fragilisera davantage les femmes en situation de harcèlement ou de violence. Et le recours accru aux contractuels va toucher forcément massivement les femmes. Aujourd'hui, 66% des non-titulaires sont des femmes. Et bon, un mot sur la ville de Grenoble. Selon son bilan social, les temps non couplés subis, ceux-ci sont occupés à plus de 86% par des femmes. Et plus de 70% des agents vacataires non permanents sont des femmes.
Résiste, marque tes droits existent. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, insiste et persiste.
De la région, des départements, des municipalités qui ont conduit notamment à la fermeture du CIDFF à Grenoble, qui a fermé. On avait déjà manifesté l'année dernière devant. Et vous avez peut-être suivi aussi que l'AVFT, qui est une des rares associations qui s'occupe des femmes victimes de violences au travail, a fermé pour l'instant sa permanence, faute de moyens pour répondre à toutes les demandes et à toutes les sollicitations. Donc pour lutter contre les violences faites aux femmes, il y a réellement besoin de moyens, et ces moyens aujourd'hui, c'est l'État qui doit les donner.
De son corps, c'est la liberté d'avoir ou pas des enfants, d'utiliser des contraceptions, d'avoir recours à l'IVG. Partout en Europe, il y a des contre-offensives, il y a des groupes qui sont organisés, des groupes qui ont des moyens, des groupes qui sont structurés, qui veulent retirer partout le droit, ce droit-là des femmes de disposer de leur corps. Le droit à l'IVG, il va falloir qu'on continue à se battre, voire se battre pour le droit à la contraception, parce que derrière, c'est ça qui sera attaqué. Donc le combat, il est aujourd'hui, il est demain, il est pour nous et pour les autres.
Tout est à nous.
Tout est à nous.
Tout est à eux.
Tout est à eux.
Nos corps, nos vies nous appartiennent.
Nous appartiennent.
Contraception gratuite et libre avortement. Ou alors ça va péter.
Ça va péter.
Ce qui est visible aussi, c'est que 50 ans plus tard, les femmes se battent toujours pour s'habiller telles qu'elles le veulent. Au croisement du sexisme et de l'islamophobie, les discussions autour du voile ou du burkini n'ont plus leur place dans le débat public. Trop couvertes ou pas assez, c'est aux femmes de décider.
Pour améliorer concrètement la situation des femmes lesbiennes, bi, trans, la situation de toutes les femmes.
Le contrôle patriarcal imposé à travers le pouvoir médical sur nos corps et nos vies, contre la stigmatisation des gays, bi et lesbiennes et leurs enfants qui se portent aussi bien que les autres. Merci pour ELE. Signé des déviants et des déviantes.
Les
Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope. Vous venez d'écouter le montage de la manif sur le 8 mars, comme si vous y étiez, un vrai petit zapping. Et maintenant, on va passer à la suite. Une manifestation qui a eu lieu quelques jours après, le 13 mars, par rapport au concert de Bertrand Cantat. En fait, c'est assez explicite dans le montage, du coup je vais vous laisser écouter, mais... somme toute, pendant le concert de Bertrand Cantat, il y a eu un rassemblement en opposition à son concert. Voilà, je vous laisse écouter.
Et c'est moi qu'on vient plaindre, et il n'y a pas de limite à mon mépris. Qui veut de moi et des miettes de mon ego? Qui veut entrer dans la toile de mon emprise? Vous savez que je suis un homme violent, un homme violent. Je suis un homme violent.
T'es en train de chanter Bertrand Casse-toi, je crois, ou une autre chanson. Et là, franchement, j'ai rien compris. Je me suis tournée, j'ai vu qu'il arrivait de derrière la salle. Il traversait la place avec un pas ultra assuré. Je sais pas ce qu'il avait, tu vois. Et en fait, il est venu vers nous. Et moi, comme j'étais devant comme une con à ce moment-là, il m'a tendu la main pour que je lui serre la main. Et du coup, j'ai retiré ma main en mode « Désolé mec, mais je peux pas, quoi, enfin, c'est déplacé. » Et du coup, il a attrapé ma tête pour me faire un bisou sur le front. Et moi, je l'interprète comme un témoignage de sa... Pour moi, c'est un problème de santé mentale.
Pourquoi les bêtes face à la princesse se dit « Suis-je bête ?» Entre haut et bas, souvent femme varie. Si elle se débat, c'est pour mieux dire oui, quand c'est non, c'est non, quand c'est non, fais gaffe, range ton bâton, t'habite et dégage, quand c'est non, c'est non, quand c'est non, mon vieux, remballe ton pardon et passe au zave, zave.
Moi, plutôt, mon analyse, c'est que c'était de la provoque et qu'il avait vraiment envie de passer pour une victime et que là, il savait que ça allait forcément déclencher des réactions et que du coup, lui, ce qu'il avait envie, c'était de montrer comment les gens qui sont contre lui, c'est des hystériques et tout, et puis que moi j'ai l'impression que c'était quand même pas mal calculé et qu'il est assez malin et qu'il est venu faire de la provoque.
Mais je pense que la provoque, enfin peut-être pour les gens qui sont vraiment dans ce narratif-là, qui sont pas du tout éduqués sur les violences faites aux femmes et tout, ça va marcher. Mais honnêtement, pour les autres, d'un point de vue extérieur, ça fait vraiment acte de psycho, quoi. Enfin. Genre, ça fait vraiment psychopathe de faire un truc pareil.
Enfin, moi, je suis vraiment choquée parce que le gars, il est accusé d'avoir fait un féminicide. Il a poussé son ex-compagne au suicide. Les femmes de son entourage commencent à porter plainte pour violences faites aux femmes. Et le gars, il vient faire un harcèlement de rue, enfin une agression sexiste, en fait.
Bandidole machiste, pour être vite, il était une bandidole. Qui parlait de révolution, qui parlait de révolution. La révolution est en carton. Machiste pour être fric,
c'est un petit peu la continuité de Marie Trintignant et Christina, dont j'ai oublié le nom de famille.
Ah, ouais.
Voilà, donc en fait, c'est la continuité de tout ça. Genre, il se permet de venir parce qu'il se sent intouchable. Il est intouchable. Enfin, je veux dire, il a tué quelqu'un, il a pas été puni. Enfin, il a été puni avec de beaux guillemets. Il a poussé au suicide quelqu'un, il a pas été puni, il a des plaintes, il est, limite, ça le survole. Bah ouais, il peut se permettre de venir, il peut se permettre limite de nous cracher dessus s'il veut. De toute façon, c'est nous les harpies féminazies qui vont, je sais pas quoi.
Et puis, toute hystérique qu'on soit, moi personnellement, même très énervée, j'ai jamais tué quelqu'un. Et je voudrais aussi finir en disant que je pense à Marie Trintignant et à Christina Radi, je les connaissais pas personnellement, mais je suis contente qu'on ait été là aujourd'hui pour porter leur mémoire.
Le personnage de Bertrand Cantat, en soi, j'en ai un peu rien à foutre, c'est juste que c'est ce qui m'intéresse, c'est de visibiliser les violences faites aux femmes et que lui, c'est un exemple qui est surmédiatisé, que du coup, c'est en ça que ça m'intéresse. C'est pas le personnage en soi qui est tout pourri.
Bertrand
on n'est pas pour la prison et tout ce que ça produit, ou pour le système judiciaire et d'empêcher les personnes d'avoir une vie après la prison. Le truc, c'est plutôt de dire, ben, en fait, à un moment, il peut pas continuer à se produire sur scène et être une personnalité publique. Et ça empêche en plus des personnes derrière de porter plainte quand elles ont subi des violences. Donc c'est ça qu'en fait, c'est dénoncer aussi ce système judiciaire et médiatique à deux poids, deux mesures, quoi, à deux vitesses. Parce que d'autres personnes n'auraient pas eu un traitement similaire, quoi.
Beaucoup d'enfants, le prince à présent n'est plus si charmant. Il croit qu'il peut jouir en propriétaire de sa femme comme s'il labourait sa terre. Non, le prince n'épouse pas la bergère, il embauche plutôt une bonne à tout faire. Elle a l'air si tendre et si innocente, si elle va se plaindre et dira qu'elle ment.
Voilà, donc on vient d'écouter un petit reportage réalisé lors du premier rassemblement qui a eu lieu le 13 mars devant le concert de Bertrand Cantat à Grenoble, à la Belle Électrique. Il y en a eu un aussi le lendemain. Et justement, suite à ces deux rassemblements, du coup, qui ont fait beaucoup parler d'eux, parce que, comme vous avez entendu, la descente de Bertrand Cantat pour soi-disant discuter avec les manifestantes a été beaucoup reprise dans les médias. Du coup, il y a eu beaucoup de discours là-dessus qui donnaient différents éléments. Et nous, là, ce qu'on vous propose, c'est une lecture d'un texte qui a été écrit par le collectif qui avait organisé ces rassemblements. Le mois dernier, on vous avait lu déjà leur appel au rassemblement, donc contre la tenue du concert de Bertrand Cantat et contre la banalisation des violences faites aux femmes. Et du coup, on va vous lire celui qui a été écrit un peu pour revenir sur ce qui s'était passé lors de ces deux rassemblements et ouvrir un peu des perspectives. Cette fois, ça a été signé « Les sorcières en colère de Grenoble ». Petite référence au message que Bertrand Cantat avait mis sur Facebook disant que à Grenoble, c'était comme le Moyen-Âge. Voilà, et ben on va prendre ce qu'il y a de bon dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire les sorcières. Je trouve ça assez rigolo. Alors, ce texte, justement, il s'appelle
« Patriarche Cantat versus sorcière grenobloise ».
Et c'est parti. Retour sur deux belles soirées électriques.
Les 13 et 14 mars dernier, nous avons appelé à des rassemblements devant les concerts de Bertrand Cantat à la Belle Électrique à Grenoble pour dénoncer sa présence indécente sur scène et la banalisation des violences faites aux femmes. Le premier soir, nous étions une bonne centaine de personnes de tous horizons réunies sur l'esplanade devant la salle pendant plus de 3 heures. Beaucoup étaient venus avec des pancartes au slogan explicite et toutes avec détermination. Depuis 17h30, nous buvions du thé et mangeions des gâteaux confectionnés pour l'occasion, distribuions notre tract de 4 pages au public qui arrivait au compte-gouttes, commencions à scander des slogans au rythme de la batucada. À 18h30, Bertrand Cantat est sorti de la salle et s'est dirigé vers nous, vite rejoint par les vigiles de la salle. Que raconter de ce moment? La façon dont il a attrapé la tête d'une manifestante pour l'embrasser? Comment il nous a toisés avec mépris, sans dire un mot, refusant de prendre le tract qu'on lui tendait? La bousculade qui s'en est ensuivie? Il nous semble inutile de revenir plus en détail là-dessus. Pour nous, il est plus important d'expliquer comment son acte était clairement calculé. De la provocation, une démonstration de force, une façon de montrer qu'il avait le droit d'être partout, tout le temps, et même d'embrasser contre leur consentement des femmes qu'il dégoûte. Pour nous, il a délibérément cherché la confrontation, et non le dialogue comme il le prétend. Créant une occasion de renverser les rôles encore une fois, et de se montrer en victime. Peut-être a-t-il d'ailleurs été déçu de notre réaction, finalement pas si violente que ça, contrairement à ce qu'il déclare sur les réseaux sociaux dans un message qu'il balance quelques minutes après son action. On peut d'ailleurs se demander si la véritable motivation de sa sortie n'était pas de créer l'occasion d'envoyer un tel message. Des insultes? Oui, il s'est fait traiter d'assassin, ce qui semble plutôt adéquat à sa personne. Peut-être peut-on se lancer dans un débat juridique où on pourrait arguer qu'il n'a pas tué avec préméditation et ne serait donc qu'un meurtrier? Ça ne change pas grand-chose. Une pluie de coups? Oui, quelqu'un l'a tapé une fois sur la tête avec une pancarte en carton. Comme a commenté un internaute sur la page Facebook de Bertrand Cantat, si Marie Trintignant avait reçu une pluie de coups comme ça, elle ne serait pas morte. C'est vrai que Bertrand Cantat est très bien placé pour donner des leçons sur ce qu'est la violence et son usage. On l'en remercie, mais non merci. Et nous serions sourds et aveuglés par la haine? Sourds, sourdes et aveugles à quoi? Il ne nous a rien dit et il était difficile de ne pas voir son sourire narquois. Et non, aucun sentiment aussi envahissant que la haine n'existe en nous envers Cantat. Juste de la colère contre lui et les violences faites aux femmes en général. L'énergie donnée par la solidarité dans un combat légitime. Le retour au Moyen-Âge, eh bien nous sommes fiers d'être des sorcières. Comme elles, nous voulons être des femmes libres et rejetons le cadre patriarcal que l'on tente de nous imposer.
Bertrand Cantat avait annoncé la veille l'annulation de ses concerts de l'été. Il devait sentir le besoin de reprendre les choses en main, de tourner les événements en sa faveur. Il a voulu faire le coq, mais nous y voyons surtout le champ du cygne d'une carrière qu'il sait être sur la fin. Avons-nous bien fait de répondre à la provocation et ainsi tomber dans ce qui ressemble beaucoup à un piège tendu par Cantat ? Nous pensons que nous ne pouvions que réagir et c'est aussi une partie intégrante de notre message. Face aux violences faites aux femmes, on ne laissera plus rien passer. Nous souhaitions revenir sur cet épisode car il a fait le buzz. Et comme souvent, de nombreux médias ont utilisé les propos du chanteur comme une description objective des faits qu'il pouvait relayer sans aucune remise en question. Mais ce que nous retenons de ce rassemblement, c'est la belle énergie, la détermination, les échanges avec les spectateurs et spectatrices, parfois tranquilles, parfois plus mouvementés, surtout quand un membre du public est allé frapper un camarade. Toujours sans concession, une femme a décidé de ne finalement pas aller au concert par désaveu du chanteur, et les slogans qui faisaient mouche, dont certains créés sur le moment. C'était fort. Nous n'avions appelé qu'à ce premier rassemblement, n'étant pas sûrs d'avoir l'énergie, d'en porter un deuxième, et assez incertaines de comment les choses allaient se passer. Pendant la soirée, de nombreuses personnes enthousiastes ont dit qu'elles souhaitaient revenir le lendemain, alors nous avons lancé un deuxième appel pour le deuxième concert. Rebelote le mercredi soir donc. Un rassemblement à partir de 19h avec un peu moins de monde, mais toujours de l'énergie et énormément de médias.
Encore quelques arguments à démonter.
Depuis que nous et d'autres avons commencé à interpeller sur l'indécence de la présence de Bertrand Cantat sur scène, nous avons pu voir les opinions changer, les discours évoluer, dépasser les premiers arguments qui nous étaient opposés, répétés en boucle par certains et certaines et relayés par les médias. Nous revenions sur plusieurs d'entre eux dans notre texte d'appel au rassemblement et nous souhaitons ici parler de deux autres, utilisés par Cantat lui-même, certains et certaines de ses fans et des journalistes.
Séparer l'artiste de l'homme.
Comment extrait-on l'artiste de l'homme ? Pour nous, c'est assez mystérieux. Cette ablation requiert-elle une intervention chirurgicale ? Et après, comment ça se passe ? L'identité artiste a-t-elle son propre compte en banque ? Du coup, aller voir Bertrand Cantat, l'artiste, n'aurait aucune conséquence sur les finances de Bertrand Cantat, l'homme ? Sur le pouvoir qu'il tire de sa notoriété ? Les mains de l'artiste qui signe les autographes, qui joue de la guitare, qui tiennent le micro, ne sont-elles pas les mêmes que celles qui ont frappé Marie Trintignant ? Et combien d'autres ? Ça demande quand même une belle gymnastique mentale pour pouvoir envisager les choses comme ça. Et clairement, la souplesse nous manque. Cela ressemble plutôt à des excuses pour pouvoir continuer à s'accrocher à une image d'Épinal qui cache un culte de la personnalité mal digérée et une nostalgie pour des fantasmes adolescents qui ne résistent pas à l'épreuve de la réalité. Et oui, cet artiste est un salaud. Et quand l'artiste monte sur scène et qu'il est applaudi, c'est bien un salaud qui est acclamé et cautionné.
Liberté d'expression et censure.
Il nous semble important de revenir sur le sens exact de ces termes et ainsi de montrer comment leur utilisation est galvaudée. La liberté d'expression est définie dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. C'est clairement dit, cette liberté concerne le droit d'exprimer ses opinions. Ce qui est problématique avec Cantat, ce ne sont pas ses opinions, ni le fait qu'il les exprime. Nous ne cherchons pas à faire taire une voix dans un débat d'idées. La censure est également un concept lié à l'expression d'opinion. C'est un procédé qui vient d'en haut, de personnes ou d'organismes de pouvoir, souvent pour effacer les opinions qui mettent en danger l'ordre établi. Un avocat célèbre va même jusqu'à parler de McCarthyisme au sujet de Cantat. Pendant cette époque sombre de l'histoire états-unienne, c'était bien l'État qui convoquait des personnes, dont le seul crime était d'être communiste, ou simplement soupçonné de l'être, puis les renvoyait de leur emploi, les mettait sur liste noire, rendant leur vie professionnelle, voire leur vie tout court, impossible, les poussant à l'exil, voire les emprisonner. L'État qui utilise sa force de répression contre la liberté d'expression et d'opinion, de la persécution politique, oui c'était bien ça le McCarthyisme. Ça ne ressemble en rien à ce qui arrive à Bertrand Cantat en ce moment. Dans son cas, nos voix qui s'élèvent sont des voix de la société civile, les voix d'un contre-pouvoir. Des voix qui expriment un ras-le-bol et portent un combat basé sur l'éthique, la dignité et le désir de mettre fin aux injustices sociales, dont les violences faites aux femmes sont parties. Ce sont les voix de femmes qui disent non à la banalisation de ces violences que nombre d'entre nous et de nos proches subissent ou ont subi, et de leurs alliés. Des voix que notre société, sourde à la souffrance, tout occupée à flatter son image, peine à entendre, et s'évertue à faire taire. Dans les conversations, dans les médias, dans les commissariats, les tribunaux, les ministères, les conférences et les colloques, dans toutes les couches sociales, au boulot, à la maison, au café, dans la rue, chut. Des voix qui souvent n'osent pas, qui chuchotent, qui insinuent à demi-mot. Des mots qui restent dans la gorge, coincés par la honte, la peur, l'incompréhension et l'indifférence ambiante. Mais des voix fortes dans la sororité, intarissables et qui n'en finissent pas de se libérer. Qui s'étonne qu'on crie, qu'on hurle ?
Et maintenant ?
La nouvelle tentative de retour au devant de la scène de Bertrand Cantat est un échec. Nous avons nul doute que cette tournée restera sa dernière. Il est en train de tomber de son piédestal, accélérons sa chute. Nous avons eu énormément de retours de personnes partout en France et même ailleurs qui nous disent que ces rassemblements les ont inspirés et qu'elles veulent s'organiser pour faire de même dans leur ville. Comme nous le chantions à Kanta devant sa salle de concert, partout où t'iras, des féministes seront là et elles diront non au patriarcat. Ça a l'air bien parti. Nous espérons que par ce mouvement de contestation, le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes et le féminisme en général vont continuer à se renforcer, car après Bertrand Cantat, la lutte ne sera pas terminée. Tant que ce système patriarcal sera là et permettra, cautionnera et même encouragera les violences contre les femmes, les lesbiennes et les trans, nous serons là, toujours plus nombreuses et plus déterminées. Pour que la peur change de camp. Notre colère ne tue pas, elle libère.
Voilà, donc c'était ce dernier texte que vous pouvez retrouver sur tous les sites d'info locale. Et pour se quitter sur notre petite page féministe, nous allons écouter Nina Simone, le morceau « Ain't Got No, I Got », qui est quand même Nina Simone, une des grandes inspiratrices, je pense, pour beaucoup de femmes, lesbiennes, trans, etc., qui combattent le patriarcat et le racisme aussi.
Vous êtes sur Kaleidoscope 97 FM, toujours, pour ce retour sur Bertrand Cantat. Juste avant d'enchaîner, je citerai un auteur célèbre, Abdelmalek Sayad, qui disait que exister, c'est exister politiquement. Alors, quand on consomme un concert, c'est un acte politique. Voilà pour cette partie-là. On va enchaîner avec un plateau de jeunes militants, révoltés par le sort détestable qui est fait aux migrantes et migrants, qui fuient les guerres dans lesquelles la France a une part de responsabilité majeure. Yvan, qui va animer ce plateau, à toi la parole.
Oui, simplement pour présenter, nous avons quatre invités. Anas, Iliès, Aubin et Emra. et qui effectivement, peut-être un peu par hasard, se sont connus, et bien qu'étant différentes associations, et sont tombés justement sur les gens qui étaient dans les gymnases, dans des conditions assez lamentables, ils vont vous en parler. Et donc je vous laisse la parole pour peut-être vous dire déjà comment vous présenter, savoir comment vous êtes connus, comment vous avez connu ces migrants là, dans les gymnases.
Bonjour à tous, moi c'est Kibira Aubin. Et du coup, nous, on est un groupe de personnes qui sont réunies, pour essayer de s'organiser au mieux pour venir en aide à ces personnes-là. Après, il y a des associations.
Vas-y, enchaîne.
Il y a des associations dont nous, on fait partie de l'association HOPE. Et avec nous, on a Emra qui est président de l'association Unisson. Après, Emra, je te laisse te présenter.
Tu veux que je me présente tout de suite, avec plaisir. Donc nous on avait un peu par hasard on a pu remarquer le sort justement des sans-abri. Pour nous c'était des sans-abri qui erraient un peu dans les rues de la métropole grenobloise, notamment aux abords de la gare et un peu plus vers le parc Paul Mistral. Et on s'est dit un peu par hasard pourquoi pas aller essayer d'échanger avec eux, comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, vraiment un peu de manière insoucieuse. On s'est rendu compte qu'ils ne mangeaient pas forcément. Et on s'est dit, c'est super, on a des réseaux sociaux. On est à l'ère justement de la surcommunication. Comment utiliser justement toute cette technologie au service de notre prochain? On a très rapidement établi un message qu'on a un peu partagé sur nos différents réseaux sociaux. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas leur faire de pub, mais ils nous ont... Oui.
Pourquoi pas, faisons de la pub.
Snapchat, Facebook, Twitter, etc. Et donc, c'est grâce à ces réseaux-là qui nous ont permis justement de créer une sorte de boom au niveau de la métropole où toutes les personnes se sont manifestées en nous rapportant soit des choses à manger, soit des vêtements, soit des produits d'hygiène de première nécessité et autres denrées qui ont pu nous servir justement à faire du bien et apporter un peu de chaleur humaine à tous ces sans-abri. On a évidemment aussi eu un intérêt de la part de différentes sociétés, d'entrepreneurs, de quartiers, etc., qui nous ont tout de suite appuyés. Et donc ça fait depuis le mois d'octobre qu'on sert des repas quasi tous les soirs, une centaine, voire à 150 repas chauds, un peu partout dans la métropole.
Aujourd'hui. C'est-à-dire dans quels endroits plus précisément?
Alors, dans un premier temps, on était énormément... La population la plus importante était... la population de sans-abri la plus importante était derrière la mairie, au parc Paul Mistral. Des personnes venant d'Afrique subsaharienne ou bien... j'aime pas trop dire subsaharienne parce que les personnes vont croire que c'est de l'immigration économique, alors que c'est des personnes qui fuient des conflits et des problématiques qui dépassent le cadre de chercher un travail ou d'aller simplement à l'école. Évidemment, ça serait le rêve à l'heure actuelle, mais c'est un peu plus que ça. Et des personnes qui viennent aussi des Balkans, Macédoine, Kosovo, Albanie et autres, qui sont, eux, avec des familles, des enfants, et qui dorment dans des tentes, qui dormaient à l'époque, au mois d'octobre-novembre, dans des tentes, avant le début de la trêve hivernale, qui dormaient dans des tentes au parc Paul Mistral, à même le sol. En espérant avoir n'importe qui, qui leur servirait un repas chaud, etc. On en avait aussi énormément à la gare. Là, on avait énormément d'Européens.
Et même des Français, d'ailleurs.
Exactement, oui. Eux étaient juste contents qu'on passe les voir, qu'on leur serve une soupe, un café, un morceau de gâteau et qu'on puisse discuter avec eux. Il y a énormément de... la plupart des personnes, peu importe leur origine, La première chose qu'ils recherchent, c'est de la chaleur humaine, en réalité. C'est un moment de partage, un moment que quelqu'un s'intéresse à eux. Donc nous, on pensait à cette époque-là apporter quelque chose de complémentaire et, aux autres associations qui étaient déjà très développées dans le milieu des marottes, si je le dis entre guillemets, mais notamment le SAMU Social et 115 qui font un travail fabuleux. Et encore d'autres associations comme AHM, etc., le Secours Populaire et j'en passe, hein. Donc nous, on pensait vraiment apporter quelque chose de complémentaire et en parlant au fur et à mesure avec ces personnes dans la rue, on nous a fait remarquer que, en fait, c'était eux, les autres associations, qui faisaient un travail complémentaire et c'est nous qui faisions un travail de fond par justement apporter plus qu'à manger, apporter plus qu'un pull, apporter plus qu'une couverture, vraiment discuter avec eux. C'était en réalité ça le travail de fond. On s'est vite rendu compte qu'on manquait, nous, de compétences. On était à l'origine juste des bénévoles, on manquait de compétences. Donc on a demandé à rencontrer les différentes associations pour essayer d'organiser un peu mieux ce travail-là, pour essayer d'avoir comme une toile d'araignée, je dirais, c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais autour de la personne, justement. En étant entouré d'experts dans différents domaines, ça nous permettait justement de mieux orienter ces personnes-là. Des personnes qui viennent parce qu'ils fuient un problème. Est-ce qu'ils veulent rester? Est-ce qu'ils veulent repartir? Est-ce qu'ils veulent étudier? Est-ce qu'ils veulent travailler? Est-ce qu'ils cherchent un logement? Ou est-ce qu'ils veulent quitter cette ville? Et en fonction de ça, justement, les experts, nous, on apportait le premier filtre. Et en fonction de ça, on essayait d'orienter ces personnes-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes, justement, qui sont dans ce milieu-là. Et on en est ravis. Et notamment, justement, ces trois jeunes qui sont à mes côtés et qui sont de l'association HOP. Et eux vont vous expliquer aussi probablement un peu plus ce qu'ils font sur le gymnase à Saint-Martin-d'Air.
Oui, alors donc, on ne vous a pas entendu, Anas et Iliès.
Donc là, c'est Anas à l'appareil.
Oui.
Donc nous, on a commencé à intervenir, c'est vraiment à se mettre dans le bain au gymnase Benoît-Franchon, donc à Saint-Martin-d'Air. Donc on est arrivé... On a trouvé ces personnes dans des conditions vraiment déplorables. Donc, ils dormaient sur des lits militaires. Ils avaient des repas fournis par la banque alimentaire. Donc, à la base, et ces personnes étaient au gymnase du Temple. Du jour au lendemain, ils se sont fait dégager, si je pourrais dire. Puis, le jour même, à 23h, on a réussi à trouver un gymnase de secours, donc du Benoît-Franchon.
Oui, il faut rappeler qu'ils se sont retrouvés à la rue sans qu'on leur dise rien du tout, où ils allaient passer la nuit. Quoi.
C'est ça. Préavis d'exclusion.
C'est ça. Mmh. Donc, avec une autre personne, donc Ahmed, qui leur a fait vraiment un suivi depuis le gymnase du Temple, on a réussi à trouver un gymnase à Benoît-Franchon. Sauf que là-bas, il y a les conditions qui étaient presque pires que là-bas, donc des repas vraiment...
C'est des repas sous vide, en fait, fournis par la banque alimentaire, et donc c'est sans sauce, c'est vraiment, on va dire, rudimentaire.
Voilà. Donc nous, on s'est porté, entre guillemets, volontaire pour leur apporter un peu de chaleur humaine, un repas chaque soir, tout ça. Sauf que plus les jours avançaient, plus on a eu des problèmes, donc refuser l'entrée pour apporter le repas, tout ça. Donc on a réussi à négocier pour essayer d'apporter le repas, mais on a un peu galéré, si je puis dire. Donc là, maintenant...
C'est-à-dire, vous avez un gardien ou des gardiens au gymnase Benoît-Franchon qui vous demandaient de ne pas rentrer, non?
Parce qu'en fait, c'est la Répi qui gère le gymnase Benoît-Franchon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la mobilisation qui a été fédérée autour de cette cause, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont joints à nous. On en a eu de tous les quartiers, que ce soit Mistral, Village Olympique, Échirolles. Et en fait, à un moment donné, la Répi a commencé à nous refuser l'accès au gymnase sous prétexte d'un arrêt préfectoral. En fait, en cherchant plus loin, il n'y avait pas d'arrêt préfectoral. Bon, après ça, c'est encore une autre chose. Mais nous, notre but à nous, vraiment, c'était de servir à manger à ces personnes-là, de leur apporter de la chaleur humaine. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on nous a refusé l'accès un premier soir. On y allait un deuxième soir, du coup, on a quand même réussi à avoir accès en négociant avec le monsieur. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réduit l'accès à 3 personnes, mais on n'a plus le droit de distribuer les repas à l'intérieur sous prétexte que nos repas, nous, ils ne sont pas sous vide et qu'il n'y a pas de label. En fait, nous, en ayant mené l'enquête un peu avec notre réseau, on a passé des coups de fil et tout, et on s'est rendu compte qu'en fait, l'histoire de labelliser, ce n'est pas vraiment quelque chose qui tient la route. Après, voilà, après, ce qui se passe, c'est que... Là, on est en train de se réorganiser au mieux parce qu'il devait, vu que le plan froid, il s'arrête le 3 du prochain mois, on a réussi à négocier pour qu'ils aient encore accès au gymnase jusqu'au 20, pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas à la rue. Mais le vrai problème à l'heure actuelle, c'est vraiment comment ces personnes-là vont faire une fois que le gymnase ne sera plus à disposition. Et c'est là qu'autour de ça, qu'on essaie de s'organiser. On essaie de se mobiliser pour trouver des solutions, parce que forcément, Par exemple, nous, on n'a pas une expérience, on n'a pas l'expérience en fait, on est en train d'apprendre sur le tas. On s'organise, on apprend vraiment sur le tas, c'est du tous les jours. Là, on n'est que trois, mais en réalité, il y a une quinzaine, une vingtaine de personnes derrière. C'est que
Oui, mais il y avait une pancarte devant. Voilà, ça t'a interrompu.
Voilà. Voilà, on a des personnes qui sont un peu référentes au gymnase. Après, on a d'autres personnes sur lesquelles on s'appuie comme étant des ressources. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on essaie de trouver comment qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas du jour au lendemain à la rue, parce qu'il y a 115 personnes et il y a une majorité d'enfants. Et quand on vous dit enfants, c'est des enfants qui vont
Des enfants français en plus.
Voilà, c'est qu'on a des enfants, on a des bébés, on a carrément des bébés, et on a des enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans.
Ils sont non scolarisés, voilà. Les parents sont sans emploi, donc non scolarisés, les parents sont sans emploi, on a une dame qui est enceinte, son enfant va naître français et elle n'a pas le droit de rester sur le territoire français. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, tout à l'heure, vous parliez de la dalle quand on est arrivé dans le studio, etc. Voilà, c'est typiquement le genre d'association ressources qu'on pourrait utiliser, qui pourrait venir rencontrer, nous apporter ce soutien-là. La plupart désirent rester en France. D'autres, clairement, vu l'accueil qu'ils ont eu, à la moindre occasion, je pense qu'ils repartiront. Mais la plupart souhaitent rester, notamment cette dame à qui je pense, et je la salue, elle s'appelle André, qui est arrivée de Guinée-Conakry, et qui a ses enfants, c'est à sa petite fille de 4 ans, qui est française. Donc, mais elle qui doit quitter le territoire, donc voilà.
Et aussi, il y a des personnes malades. Notamment, il y a une femme en fait qui avait un logement, qui habitait à Échirolles. Elle a deux enfants qui sont scolarisés en France. Elle habitait à Échirolles et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée à la rue. Elle est diabétique et du coup, dans des conditions pareilles, c'est très très difficile à vivre. Parce que là, on vous relate les faits, mais honnêtement, la première fois que nous on y allait, je vous cache pas qu'on avait les larmes aux yeux.
Vous pouvez en parler justement des conditions dans lesquelles ils sont hébergés?
Bah en fait,
Benoît Frachon, c'est un vous voyez l'image de film, l'image d'un film genre de la fin des temps, en mode tout le monde en quarantaine, dans des lits, sur des lits de camp, des couvertures de fortune, genre limite, ça me fait penser, on dirait qu'il y a du typhus dessus ou j'en sais rien. Même moi, enfin honnêtement, nous pourquoi on dit qu'on veut leur servir à manger? Parce qu'on part de l'ambition qu'ils ont le droit de manger ce que nous on mange. Pourquoi eux n'auraient pas le droit d'avoir la même qualité de vie que nous, on a? Ça aurait pu être nous à leur place, ça aurait pu être n'importe qui à leur place. Et on essaie vraiment, nous, d'avoir ce côté empathie avec ces personnes-là qui le méritent, parce que c'est des personnes qui sont... Enfin, nous, on les voit là en mode sans-abri. Donc tout de suite, l'image qu'on en a, elle est dégradée inconsciemment. C'est la société qui fait ça. Ce qui se passe, c'est que dans leur pays, ces personnes-là, étaient probablement à l'aise, nous on en a rencontré plein, qui étaient à l'aise, qui vivaient, qui travaillaient, qui avaient leurs enfants qui étudiaient, etc. Et subitement ont dû fuir un conflit et se retrouvent justement aujourd'hui en mode, c'est le bas étage de la société française, enfin de la société française, de la société en France, parce que bah, pas française du coup, parce qu'ils sont en marge de la société française. Oui. Et nous c'est ça qui nous alerte, c'est que si nous on avait dû... fuir dans leur pays. Si la France avait été en guerre, si la France avait été en conflit, si nous, on avait dû être accueillis en Afrique ou dans les Balkans ou autre, est-ce que ces personnes-là se seraient comportées de la même manière? Est-ce que ces personnes-là nous auraient traités de la même manière? Je ne sais pas.
Ce que je trouve paradoxal dans ce que vous dites, c'est que actuellement, il y a une carence donc des institutions ici, et ces mêmes institutions vous critiquent lorsque vous venez en aide, et ça, c'est moi, je trouve ça extrêmement choquant, quoi.
En fait, on n'arrive même pas à s'en plaindre tellement on a l'habitude. On a grandi dans ça. On a grandi en marge de la société, en étant traité de citoyens de seconde zone, de citoyens de bas étage ou autres, des personnes qui ne votent pas. C'est peut-être de notre faute. À nous de réagir, à nous de faire en sorte, justement, via nos différentes associations, de faire en sorte que des jeunes, justement, des quartiers qui sont exemplaires, regardez, qui sont là, qui se soucient de l'autre, de la personne. Et donc, je trouve que c'est peut-être de notre faute, probablement, mais on ne compte plus trop sur les associations. Ça marche très bien, notre manière de fonctionner aujourd'hui pour servir de repas fonctionne très bien. On fait appel à des personnes qui, eux, de leur propre chef, décident de venir faire une soupe, faire une salade, faire un plat chaud, ramener des gâteaux, des fruits, etc. Et puis basta, on le sert, on a 115 personnes dans le gymnase Benoît Frachon. Est-ce qu'on va attendre que ces personnes-là mangent des courgettes bouillies servies par la banque alimentaire? On en a 7 qu'on a dû emmener aux urgences parce qu'ils ont fait une intoxication alimentaire grâce à ces repas-là justement servis sous vide. Qu'est-ce qu'on en fait de ces personnes-là? On attend que les institutions viennent? Mais non. Ben non, on peut pas. On a été responsabilisés malgré nous. Un peu prématurément, on n'était pas forcément préparé à pouvoir accueillir toutes ces personnes, enfin nous en tant que jeunes, mais aujourd'hui on a cette responsabilité. On les laisse, on attend que la mairie, le préfet, on attend que d'autres personnes qui ont apparemment de l'expérience dans le milieu associatif le prennent en charge. Non, on ne peut pas.
Et surtout nous, ce qui fait que on tient tant à cette cause, c'est que je pense que nous, on est des jeunes de quartier quand même. Et la réalité, c'est que dans les quartiers, on est, pour la plupart d'entre nous, on est des enfants d'immigrés. C'est que peut-être pas, si c'est pas nos parents, c'est peut-être nos grands-parents qui ont dû immigrer. Et que si on fait une petite marche arrière, la réalité, c'est que nos parents aussi sont passés par là. Quand nos parents ou nos grands-parents nous racontent leur récit en France, leur arrivée, c'était dans des telles conditions. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on revit la même chose, en fait. Et que nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est vu que moi, comment mes parents ils m'ont raconté leur arrivée en France, si j'ai l'opportunité de rendre moins difficile la vie de ces personnes-là, c'est nous, on va le faire, on le fait. On n'est pas là, on va pas résoudre toute la misère, mais c'est juste vraiment si nous, on peut apporter un peu, on va le faire. Et la réalité, c'est qu'on est confronté aujourd'hui aux institutions qui ne nous laissent pas faire en réalité. C'est que nous, on est là, on est des bénévoles, on prend sur notre temps, et la réalité, c'est que quand qu'on veuille faire, des gens, sous prétexte qu'ils ont de l'expérience, sous prétexte d'une posture ou d'une position, ils nous bloquent. Et c'est ça qu'on trouve déplorable à l'heure d'aujourd'hui. Parce que les gens, ils sont de bonne foi. Les gens, ils disent oui, mais si, mais ça, mais ça. En réalité, c'est pas ça. Il y a des mamans qui font à manger. Il y a eu des mamans, un groupe de mamans de Saint-Martin-d'Hères qui ont fait à manger. Nous, on avait reçu le message quand? On avait reçu un message un mercredi. Le jeudi, on y était. Il y a des jeunes qui se mobilisent de partout. Il y a des gens pour aider. La réalité, c'est qu'on n'est pas en manque de bénévoles. C'est que, à l'heure d'aujourd'hui, on ne veut juste pas nous laisser faire. Il y a un repas qui a dû être servi devant le gymnase. Emra, c'était quand?
Mercredi.
Voilà. Il y a des jeunes des Chirols qui avaient préparé à manger, qui sont venus pour servir. On nous a refusé l'accès au gymnase. Imaginez-vous quand même qu'on a servi à manger devant l'entrée du gymnase à côté des toilettes. Est-ce que vous aimeriez être servi à côté des toilettes? Non. Mais on a dû faire avec les moyens du bord.
On essaie de s'adapter aux conditions qui sont déjà compliquées dans le gymnase. Et en plus, à nous, on nous durcit les conditions.
Parce que nous, ça fait pas longtemps qu'on est arrivé sur le mouvement, mais quand même, depuis début octobre.
Depuis octobre.
Voilà, il y a quand même eu au moins 27 000 repas de servis. 27 000 repas de servis. Et tout le monde
sans don d'institution ou autre, sans subvention de service public, je tiens vraiment à le dire, vraiment grâce à des dons privés, uniquement, en utilisant les réseaux sociaux encore une fois, en partageant les messages sur les réseaux sociaux, uniquement et principalement des jeunes issus des quartiers défavorisés de la métropole grenobloise. Vraiment, je précise Saint-Martin-d'Hères et Chirol, Fontaine et j'en passe. Et grâce à des entrepreneurs issus de nos quartiers, justement. Donc c'est un peu une fierté. Mais si, en plus, on nous facilitait les choses, vous voyez, si on nous facilitait les choses, il y aurait peut-être encore plus de repas servis. Si on nous prenait en considération et on nous prenait au sérieux, il y aurait peut-être encore plus de repas servis et ça serait encore de meilleure qualité. Voilà. Donc on espère pouvoir continuer. Moi, je tiens vraiment à féliciter tous les bénévoles et tous les jeunes qui sont actifs autour de ces personnes, de ces sans-abri-là. On a différents termes qu'on essaie de ne pas employer comme migrants, qui sont très stigmatisants pour nous.
Qu'ils ne le sont pas tous. Hein,
on remarque sincèrement ce qui nous fait crainte, très honnêtement, hein, je vais vous le dire. Hein. Ce qui nous fait crainte, c'est le racisme. En France, qui est en train de se décomplexer totalement. Et nous, on lutte énormément pour ça, justement.
Ben, on vous remercie. On se joint aux félicitations que vous avez faites avec pour tous ceux qui s'occupent des migrants et autres. Hein. Voilà. Et on vous remercie également d'être là parce que on espère, malgré peut-être on n'a pas un gros auditoire, mais on espère que votre message sera entendu.
Merci pour l'accueil. En tout cas, c'était très agréable.
Ouais. C'était donc Anas, Ilyes, Aubin et Emra. Merci à vous d'être des colibris et à chacun d'entre nous, à son échelle, de changer les choses pour que le monde s'améliore. On enchaîne avec Baptiste et les brèves.
Pour dire qu'on restait bien sur la thématique de racisme, de frontières et d'institutions, puisque complètement sur un autre côté du coup du secteur, mais au niveau du campus de l'Université de Grenoble, du coup, à Saint-Martin-d'Air, il y avait jeudi dernier un colloque qui avait pour thème de Frontex à Frontex. Donc pour mémoire, Frontex est l'armée européenne qui contrôle, regroupe les gardes frontières aux portes de l'Europe. Frontex a déjà été accusé de plusieurs violations des droits de l'homme. Il y a aussi des rapports qui ont montré que les gardes-côtes avaient tiré à balles réelles sur des bateaux et sur des personnes dans les bateaux. Et en plus de ça, il y a une vraie difficulté puisque Frontex est en dehors de tout contrôle démocratique. C'est-à-dire que comme c'est une institution qui est nouvelle et que l'Europe n'a pas encore d'armée, il n'y a pas de contrôle démocratique sur cette agence qui se permet justement de violer les droits de l'homme au quotidien en Méditerranée et aux portes de l'Europe. Et du coup, donc ce colloque portait sur cette question et notamment sur le respect des droits de l'homme. Et il y avait plusieurs manifestants qui s'opposaient notamment au fait que Frontex soit elle-même présente et des personnes de Euromed Police soient aussi présentes pour parler de ces questions. Il y a eu une manifestation du coup qui a eu lieu jeudi dernier sur le campus de Grenoble et qui a été violemment réprimée puisque des personnes donc ont essayé de rentrer dans le colloque pour s'interposer et empêcher notamment des policiers de parler, de s'exprimer comme si c'était des intervenants classiques. Et les policiers ont chargé avec lacrymogène et coups de matraque sur la tête à l'intérieur même de la salle. Il y a eu plusieurs points de suture, etc. Et l'université, jusqu'à présent, même si elle a déploré les débordements et le côté disproportionné de la violence, s'est toujours pas excusée pour avoir fait intervenir les forces de l'ordre à l'intérieur même du colloque. Voilà. Donc petite information sur le racisme et la tendance à la banalisation notamment de ces violences aux frontières.
On peut rappeler que colloque, ça vient de parler ensemble et que donc il y avait une seule expression qui pouvait se faire et que la contradiction, elle est réprimée.
Ouais, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut déplorer que les policiers viennent intervenir comme si c'était des spécialistes de ces questions. Du coup j'enchaîne sur l'agenda. Donc simplement pour vous dire qu'à partir de mardi 3 avril à 18h à la MDH Chaurier-Béria, donc Maison des Habitants, il y a justement une conférence sur le vernissage d'une exposition qui s'appelle Pourquoi l'exil, pourquoi la solidarité. C'est donc une exposition de photos qui explique pourquoi les personnes fuient leur pays et se déplacent à la recherche d'une vie et d'un avenir meilleur, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont et qui ils sont, etc. Et du coup donc c'est une exposition du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Le même jour, donc mardi 3 avril à 18h30 au Café de la Table Ronde, il y a une rencontre organisée par l'association Survie sur la guerre au Cameroun ou l'invention de la France-Afrique et du coup qui est donnée par l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La guerre du Cameroun, c'est Manuel Domergue. Et donc cet ouvrage s'appelle La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique et qui raconte une autre histoire que la lecture officielle faite sur la décolonisation du Cameroun. Le 4 avril 2018 à 11h, sur la place de Verdun, il y aura une manifestation organisée par la CGT sans papiers qui est là pour exiger des papiers aux travailleurs sans papiers puisque, on le sait, jusqu'à présent, du coup, c'était un deal qui disait les travailleurs bossent ici, payent leurs impôts ici, vivent ici et du coup, ont le droit notamment à la régularisation et aux mêmes droits que les autres personnes. Et plusieurs préfets ont respecté ces accords, mais là, depuis quelques mois, le nouveau préfet ne respecte pas ces accords et la préfecture refuse quasi systématiquement toutes les demandes de séjour des camarades. Et du coup, il y a eu 8 dossiers sur 11 qui ont été refusés et donc il y a une manifestation pour exiger la régularisation des travailleurs sans papier. Le 5 avril maintenant, donc à 20h30 au Tranquillou, c'est donc un café, il y aura une conférence gesticulée sur le thème « Recours après tes droits ». Et du coup, voilà, avec l'idée des droits, et en l'occurrence des droits qui ne sont pas respectés, et de comment fait-on pour les respecter. Et puis enfin, du coup, le 5 avril à la BAF, il y aura une soirée présentée par Dali Dark, organisée par Dali Dark. Et du coup, donc, c'est une soirée queercore et féministe. Le queercore, c'est donc un mouvement politique et musical qui met à mal l'hétéropatriarcat et l'hétéronormativité avec une énergie punk hardcore. Il y aura plusieurs groupes, du coup, Eat My Fear, Ering Soda et Tôle Froide. On reprendra l'agenda la semaine prochaine. Voilà. Merci encore à nos invités. À bientôt. Bonne semaine à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Merci.
Merci.
Merci. Merci.